bien, c'est l'histoire d'un paralytique qui a été pardonné et guéri par Jésus-Christ. Nous allons lire maintenant ce texte, mais juste avant de le lire, peut-être vous êtes en train de le chercher. Permettez-moi de dire que je pense que ce texte est très à propos pour la situation actuelle que nous vivons. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de monde autour de nous qui souffrent, qui sont malades, soit ils sont confinés chez eux, soit encore ils sont à l'hôpital, mais qui sont en attente de meilleurs jours, d'aller mieux, d'être guéris. Et puis, tous ont besoin de pardon. Et Jésus a pardonné ce paralytique. Tous avons besoin de pardon, oui, parce que devant Dieu, nous sommes tous pécheurs, et donc tout le monde a besoin de son pardon. Et puis, vous savez que face à la maladie, face au péché que nous avons, eh bien, nous sommes tous un peu comme ce paralytique qui avait besoin de vraiment dépendre de Dieu, de venir vers Jésus-Christ pour la solution. Et c'est notre besoin aussi. Mais nous allons lire maintenant ce texte. Je vais essayer de m'écarter un petit peu pour que vous puissiez le voir. Sinon, vous avez le texte dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12, que je vais lire pour vous maintenant. Quelques jours après, dit Marc, c'était quelques jours après la guérison d'un homme qui avait le lèpre, et qui est raconté dans le chapitre 1, eh bien, Jésus revint à Capernaüm. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème! Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jusque-là pour la lecture de ce matin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant que je lisais ce texte, le silence qui règne dans cette histoire. Ce n'est pas une parabole, hein, ce n'est pas juste une histoire que Jésus a racontée, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé, une expérience qu'il a eue. Mais il y a comme un silence qui règne. C'est vrai, il y a une foule nombreuse qui était là dans la maison. Ils étaient tellement nombreux, dit Marc, qu'il n'y avait plus place dans la maison ni devant la porte. Et les amis de ce paralytique ont dû monter sur le toit en terrasse, ouvrir une partie de ce toit pour faire descendre leur ami devant Jésus. Alors, Marc ne nous fait pas entendre non plus leur voix. Il y a seul Jésus qui parle dans notre texte jusqu'à la fin de l'histoire. Lorsque tout le monde a vu le miracle que Jésus-Christ il avait fait, ils ont tous sauté de joie en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. C'est comme si Marc voulait nous aider à voir mieux la grandeur de Jésus-Christ et aussi de entendre la louange qu'il méritait lui d'entendre pour les miracles qu'il faisait. Alors, on va voir trois grandes qualités qu'avait Jésus et qui se dégagent très facilement de ce texte ce matin. On va voir sa grande connaissance. On va essayer de voir également la grande compassion qu'il avait. Et puis finalement, le grand pouvoir que Jésus-Christ a exercé. Alors, commençons par la grande connaissance de Jésus-Christ. Il y a un mot que les théologiens emploient pour la connaissance de Dieu qui est sans limite, et c'est le mot omniscient. C'est un mot soudé en fin de compte qui vient de deux mots donc, omni et scient. Omni signifie tout et scient, c'est comme notre mot science. Il a toute science, il a tout savoir. Et l'ensemble, ça signifie que Dieu, et puisque Jésus, il est Dieu, il sait tout, il voit tout. Et notamment, notre texte dit qu'il a vu la foi du paralytique et de ses amis. C'est quelque chose d'étonnant. Est-ce facile ou difficile de voir la foi de quelqu'un? Vous savez, la foi n'est pas quelque chose qu'on peut facilement voir. C'est dans le cœur des uns et des autres. Oh, il est vrai que nous pouvons voir quelqu'un aller à l'église, par exemple. Nous pouvons voir lorsqu'il y a quelqu'un qui lit la Bible. Nous pouvons voir également lorsque quelqu'un prie. Mais vous savez que l'apôtre Jacques, il dit dans son épître qu'il y a certains qui, ressentant un besoin de sagesse, prie Dieu, mais qui prie sans foi. Et il dit dans ce cas-là, si vous priez Dieu pour la sagesse, mais sans avoir la foi qui vous le donne, eh bien Dieu ne vous la donnera pas. Il est possible donc que des gens puissent même prier Dieu, et dans ce moment de prière, eh bien il n'y a pas de foi. Et Dieu, il le sait. Alors que pour ces hommes-là, et le paralytique, Jésus a remarqué leur foi. Permettez-moi de vous poser la question, est-ce que vous avez la foi en Dieu? Est-ce que vous priez avec foi? Vous savez, pour moi-même, il est difficile d'être un bon juge de soi-même. Il est tellement facile de se tromper sur sa propre foi. J'aimerais vous raconter une petite histoire, vous la connaissez peut-être, vous l'avez peut-être déjà entendue. C'est l'histoire des gens qui habitaient dans une région où, pendant une certaine période, il y avait énormément de sécheresse. Ça durait des semaines et des semaines. Il ne pleuvait plus. Et puis, c'était très, très dur pour tous les agriculteurs. Alors, les chrétiens dans ce coin-là ont décidé d'organiser une réunion de prière. C'est ce qu'ils ont fait. Et alors, une famille de chrétiens dans cette église s'est préparée pour la réunion. Et pendant qu'ils se préparaient, les deux parents remarquaient que leur fille, après s'être habillée pour aller à l'église, eh bien, elle est allée chercher son parapluie. Alors le papa, il a dit, mais chérie, tu vois pas, il n'a pas plu depuis des semaines et des semaines, et même aujourd'hui, il n'y a pas de nuages dans le ciel. Pourquoi prends-tu le parapluie? Et la petite fille, elle a répondu, papa, nous allons à l'église pour demander à Dieu la pluie. Alors, je pensais que c'était normal de prendre le parapluie. Elle avait la foi que Dieu allait répondre. Est-ce que lorsque moi je prie, est-ce que lorsque nous prions, que vous priez, est-ce que nous prions avec foi que Dieu nous entend et il va répondre? Vous savez, tellement facile de se tromper sur sa propre foi. Et permettez-moi de vous poser une autre question. À votre avis, qu'est-ce que Dieu voit dans votre cœur? Il pouvait voir ce qu'il y avait dans le cœur de ce paralytique et de ses amis. Mais alors, quand il nous regarde, qu'est-ce qu'il voit dans notre cœur? Si vous dites, Oui, je crois en Dieu, mais je n'ai pas le sentiment d'avoir une très grande foi. Eh bien, soyez encouragés ce matin, parce que vous pouvez prier la même prière que les apôtres ont prié dans Luc chapitre 17, verset 5, lorsqu'ils ont prié, Seigneur, augmente-nous notre foi. Vous savez, Dieu, il voit ce qu'il y a dans notre cœur et Jésus, il sait tout. Il a vu donc la foi de ces gens-là. Mais pas seulement ça, il connaissait aussi, dit notre texte au verset 8, il connaissait par son esprit ce qu'il y avait dans le cœur des scribes, ce qu'ils pensaient. Oh, vous savez, des scribes imaginaient sans doute que si Dieu regardait dans leur cœur, eh bien, ils seraient heureux de voir l'énormité de leur foi, etc. Et il semble aussi qu'ils ont adoré Dieu, qu'ils ont reconnu sa toute-puissance et son omniscience. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, Dieu seul a le pouvoir de guérir et de pardonner les péchés. Mais en réalité, il blasphémait parce qu'il disait, Jésus-Christ, il n'a pas le droit de pardonner les péchés. Mais c'était exactement ce que Jésus voulait enseigner à cette foule qui était là. Il voulait leur démontrer qu'il était effectivement Dieu fait chair, le Fils de Dieu depuis toute éternité, et qu'il avait donc le droit de pardonner les péchés. Alors, il a décidé d'intervenir en faveur de cette personne-là. Alors, j'aimerais vous demander ce matin, si vous êtes accablé par un sentiment de culpabilité, eh bien, sachez que Dieu dit dans sa parole, dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous savez, Dieu, il ne se trompe jamais dans ses estimations des hommes. Non pas seulement il peut nous pardonner et veut nous pardonner, mais comme il a une parfaite connaissance de nos cœurs, eh bien, il ne m'accusera pas, il ne vous accusera jamais faussement. Et je peux le louer également parce que je sais qu'il pourra répondre parfaitement à tous mes besoins, parce qu'il les connaît parfaitement. Il connaît mon cœur, il connaît mes besoins. Dans Philippiens chapitre 4, verset 19, il est dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Voyez-vous, il peut nous pardonner de toute iniquité. Pourquoi toute iniquité? Parce qu'il les connaît toutes. Il peut répondre à tous nos besoins. Pourquoi tous nos besoins? Parce qu'il les connaît tous. Il est omniscient. Il sait tout. Et alors, si vous avez envie maintenant de louer le Seigneur pour sa science qui est tellement grande, je vous encourage à le faire. Coupez bien vos micros, mais vous pouvez le faire chez vous. Il aime entendre nos louanges et nous pouvons le louer pour sa grande connaissance. Nous pouvons également le louer pour sa grande compassion. Et c'est ce que nous voyons dans ce texte ce matin. Il a compassion des infirmes, ça c'est bien évident. Il n'a pas hésité un instant à intervenir dans le cas de ce paralytique dès qu'il a vu sa foi et la foi de ses amis. Ce qui est confirmé également par Matthieu dans son évangile lorsqu'il dit au chapitre 8, verset 17, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Et dans Matthieu chapitre 9, verset 35, il ajoute que Jésus, lorsqu'il parcourait les villages en Israël, eh bien, il guérissait toute maladie et toute infirmité. Mais est-ce que Jésus guérit tout le monde? Il y avait des fois où il guérissait quasiment tout le monde qui était devant lui, mais force est de constater que de nos jours, il ne guérit pas forcément tout le monde. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu manque de compassion pour nous aujourd'hui? pas du tout. C'est que Dieu a aussi d'autres priorités en tête quand, par rapport à nous. Je pense à Paul, qui était un de ses plus grands serviteurs. Eh bien, l'apôtre Paul devait accepter, supporter son écharpe dans la chair. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas qu'il soit enflé d'orgueil. Je pense également à Timothée. Il y a tellement d'exemples dans la Bible, mais Timothée avait aussi ce que la Bible appelle de fréquentes indispositions. Probablement quelque chose au niveau de sa digestion, hein, son ventre. Et est-ce qu'il devait prier forcément que Dieu lui donne une guérison miraculeuse ou accepter un traitement naturel? Et Dieu lui a montré à travers l'apôtre Paul, il a même encouragé à prendre un peu de vin pour ses fréquentes indispositions. Et puis Jésus-Christ, c'est probablement lui qui est le meilleur exemple de quelqu'un qui a enduré pendant longtemps des souffrances. Et cela pendant qu'il était sur la croix, en train de mourir pour vous et moi. Mais s'il n'avait pas accepté, mes amis, nous n'aurions jamais pu être sauvés. Alors Dieu avait une priorité en tête, c'était notre salut. Mais j'aimerais aussi dire que dans tout cela, Dieu n'a pas abandonné les siens. Il a été avec son Fils sur la croix et c'est pour cela qu'il a pu aller jusqu'au bout pour notre salut. Il a été avec Timothée, il était avec l'apôtre Paul également, et qui a pu témoigner par la suite que ta grâce me suffit. Et sa grâce est toujours à notre disposition aujourd'hui, mes amis, et il ne nous abandonne jamais dans nos souffrances. Et nous pouvons dire, oui, ta grâce me suffit. Il est dit dans Hébreux chapitre 4, verset 15, qu'il compatit à nos faiblesses. Et ça, c'est les vôtres et les miennes. Oui, Jésus, il a compassion des infirmes, mais il a compassion aussi des pécheurs. Apparemment, c'était la chose la plus importante pour Jésus, parce que la première chose qu'il a faite pour ce paralytique n'était pas du tout de le guérir, mais de lui pardonner ses péchés. Alors, on a l'impression, parfois, on entend les gens autour de nous dire que le pire des maux qui peuvent nous arriver, c'est les maladies, c'est le coronavirus ou autre maladie comme ça. Et le plus grand bien, la meilleure chose qu'on peut souhaiter aux gens autour de nous, c'est la santé. Oui, tout cela est très important. Mais le péché, vous savez, infecte tout le monde. Non pas quelques-uns, car tous ont péché, dit la parole de Dieu. Et le péché aussi condamne pour toute l'éternité, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, et ça, c'est la séparation avec Dieu en enfer pour toute l'éternité. Il aurait été donc dommage que Jésus, face à cet homme infirme devant lui, ne traite que les symptômes de sa maladie physique. Non, il a aussi pardonné, parce qu'il a compassion également des pécheurs. Et je vous assure que lorsque Dieu voit notre foi et que Jésus nous voit venir à lui pour implorer son aide, eh bien, il pardonne complètement nos péchés, et ça pour l'éternité. Alors, est-ce que Dieu a pardonné vos péchés, mes amis? Est-ce que vous êtes allés vers lui avec les péchés que vous aviez sur votre cœur pour lui demander pardon avec foi? Eh bien, réjouissez-vous! Dieu a compassion aussi des pécheurs, et il pardonne des pécheurs. Nous pouvons le louer pour cela. Nous pouvons le louer parce que il a une énorme connaissance. Il sait toutes choses sur nous, ce qui est caché dans le cœur, ce qui est visible dans notre corps. Il a aussi une grande compassion pour nous quand nous sommes malades, mais aussi quand nous sommes dérangés, nous avons un grand sentiment de culpabilité. Il sait aussi intervenir envers nous. On peut le louer pour cela, mais on peut aussi le louer pour son grand pouvoir. Et ça, c'est évident aussi dans son passage. Et là encore, des théologiens emploient un mot pour décrire le pouvoir unique de Dieu qui est illimité. C'est le mot omnipuissant. On a déjà vu que omni signifie tout, donc tout puissant. Et d'ailleurs, dans la parole de Dieu, Dieu lui-même est souvent qualifié de tout puissant. Il est le tout puissant qui peut faire tout ce qu'il veut. Alors, j'ai cherché quelques versets dans la parole de Dieu où on voit agir le tout puissant. Je vais les mettre sur l'écran et j'espère que ces versets seront un encouragement pour vous, que vous allez vous reconnaître peut-être dans certaines de ces situations. Dans Genèse chapitre 28, verset 3, il parle à Abraham et vous savez qu'Abraham et Sarah avaient une grosse difficulté, un grand chagrin dans leur vie. Il n'arrivait pas à avoir les enfants. Et là, nous lisons dans Genèse 28, 3 donc, « Et que le Dieu Tout-Puissant te bénisse et te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. » Et c'est la promesse que l'Éternel avait faite à Abraham. Je pense que ça lui est allé droit au cœur. Avons-nous besoin de la bénédiction de Dieu aujourd'hui? Oui, nous n'avons peut-être pas besoin d'enfants ou d'autres enfants, mais nous avons besoin de sa bénédiction et le Tout-Puissant sait jauger la bénédiction dont nous avons besoin pour chacun. Alors, Genèse 43, verset 14, c'est un verset. J'ai demandé l'aide de Benjamin ce matin parce que c'est une histoire de Jacob, où il va envoyer ses fils en Égypte pour la deuxième fois pour chercher des vivres. Et il y avait un de ses enfants, de ses fils, qui avait été gardé là-bas, prisonnier, en attendant que Benjamin puisse aussi descendre. Joseph, on le sait, il est déjà là. J'avais oublié qui était le fils qui était gardé en prison, attendant le retour des autres. Ah ben, c'était Siméon. Benjamin, il l'a trouvé tout de suite. C'est très bien. Mais avant que Jacob envoie les autres, les 10 autres, donc il y a Joseph, il y a Siméon qui sont déjà en Égypte, et avant qu'il envoie les 10 autres, il dit ceci à ses 10 fils, « Et que le Tout-Puissant vous fasse trouver compassion devant l'homme, afin qu'il laisse partir avec vous votre autre frère, Siméon, et Benjamin. Et moi, si je suis privé d'enfants, je serai privé. » Avons-nous parfois besoin de trouver grâce aux yeux de l'administration? Je pense que nous avons tous été dans des circonstances comme ça, où nous devions aller, d'ailleurs nous sommes en attente, Karine et moi, d'aller dans le sous-préfecture ici pour déclarer notre changement d'adresse. On n'a pas pu le faire depuis que nous sommes ici. Et nous espérons qu'une fois là-bas, eh bien, nous serons bien accueillis et que nous puissions arriver au bout de nos démarches. Mais vous savez, Dieu, il peut intervenir en notre faveur pour les situations comme cela et nous aider à trouver bon accueil auprès des gens avec qui nous devons avoir affaire. Et puis, la personne dans l'Ancien Testament qui utilise le plus souvent le mot tout-puissant pour décrire Dieu, c'est Job. Et plutôt que de faire une liste de tous les versets, j'ai relevé plusieurs choses qu'il dit que le Tout-Puissant est capable de faire. Il dit, par exemple, que le Tout-Puissant a donné le souffle de vie aux hommes. Si nous vivons aujourd'hui, c'est grâce au Tout-Puissant. Il donne le bien et le mal, comme lui-même avait expérimenté, mais ça aux hommes bons comme aux mauvais. Il discipline aussi les siens et il donne de l'intelligence à l'homme. Et il y a d'autres choses qu'il mentionne dans son livre et je vous encourage à relire cette histoire de Job et relever toutes les choses que le Tout-Puissant fait pour nous les hommes. Et puis, dans le psaume 91, verset 1, je pense qu'Alain a cité ce verset aussi ces derniers dimanches, dans le psaume 91, verset 1, il est dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » On trouve du repos, on a besoin de repos. Peut-être qu'il y en a qui pensent qu'on a trop de repos maintenant, on est trop déconfiné. Mais même dans ce temps de déconfinement, on peut avoir du stress hein, dans notre cœur. On peut avoir besoin de vraiment retrouver la paix en Dieu. Et bien là, il y a quelque chose que le Tout-Puissant peut faire pour chacun d'entre nous. Joël, alors là, il parle de quelque chose qui est moins réjouissant, mais qui fait partie de ce que le Tout-Puissant peut faire. Lui, il parle du jour de l'Éternel, qui viendra comme une destruction du Tout-Puissant. Oui, il peut faire ça. Dans le Nouveau Testament, il est question quelquefois aussi du Tout-Puissant. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 18, il est dit, c'est l'Éternel qui parle ici, il dit, « Je serai pour vous un père, et vous, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. » Il peut prendre des êtres comme moi, des pécheurs comme moi, comme vous, et faire de nous ses enfants, et nous garder pour toute l'éternité. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Tout-Puissant. Selon l'Apocalypse, c'est le livre dans le Nouveau Testament qui emploie le plus souvent ce mot Tout-Puissant. Et selon le chapitre 11, verset 18, le Tout-Puissant prendra en main un jour son grand pouvoir pour établir son règne. Oui, ça viendra. Et puis, Apocalypse 19, verset 15, je vais terminer avec celui-ci. Il est question de la colère du Tout-Puissant qui frappera un jour les nations incrédules. Mais Jésus-Christ, il est aussi Tout-Puissant. Nous le voyons dans notre histoire ici ce matin, mais il fait plein de choses dans les évangiles. Vous vous souvenez de comment il a calmé une tempête simplement par sa parole. Il y avait une fois aussi, même plusieurs fois, il a pu guérir à distance, sans voir ni même toucher le malade. Et puis, il a multiplié le pain et les poissons. Nous avons lu ça dans notre culte en famille hein, récemment, avec Benjamin et Karine, et nous avons remarqué comment il a pu, une fois avec 4000 personnes, une autre fois avec 5000 personnes, nourrir tous ces milliers de personnes avec si peu de choses. Pourquoi? Parce que Jésus est tout-puissant. Il a aussi ressuscité des morts. Il a chassé les démons, même Satan. Et puis, il répondait aux prières de ceux qui l'imploraient. Et combien de fois les gens sont venus vers lui demander son secours. Et il a intervenu, il a répondu en leur faveur. Oh, je pense que nous pouvons dire, comme toute la foule qui était réunie dans cette maison et autour de cette maison, qui ont vu Jésus-Christ guérir ce paralytique, le pardonner aussi de ses péchés, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ces derniers temps, dans mon culte personnel, je lis dans l'Ancien Testament et je suis arrivé à 2 Chroniques chapitre 6, verset 15, où il y a l'histoire dans ce chapitre-là de la dédicace du temple que Salomon avait construit à Jérusalem. Et là, le jour de la dédicace, il prie l'Éternel et il dit entre autres ceci, « Ce que tu as déclaré, l'Éternel, de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. » Et là, j'ai pris mon petit stylo, j'aime bien garder, quand j'ouvre, j'ai une Bible qui a de grosses marges. Alors là, ça me permet d'écrire dans la marge quand il y a des pensées qui me viennent à l'esprit. Et là, je l'ai fait et j'ai noté ceci dans la marge de ma Bible à côté de ce verset. Ce que Dieu dit avec sa bouche, il fait avec sa main. Et la Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et mes amis, lorsque nous mettons notre foi en lui, lui qui est l'omniscient, il voit la foi dans notre cœur. Et le Tout-Puissant se met en action pour nous délivrer de nos péchés, et cela pour toute l'éternité. Jésus a dit à cet homme, si ce paralytique, tes péchés sont pardonnés. Et pour lui, comme pour nous, eh bien, lui, le Tout-Puissant, a pris le sang. Ben, il n'avait pas encore versé, mais il allait bientôt le verser sur la croix. Il a pris le sang, il a effacé complètement toutes les fautes de cet homme. Eh bien, je vous encourage ce matin, mes amis, à croire donc en lui, à avoir une foi renforcée ce matin en lisant ce passage dans la Bible et vraiment mettre votre confiance entièrement en Jésus-Christ. Et si Dieu voit que vous avez déjà la foi dans votre cœur, eh bien, c'est formidable. Même si vous trouvez que c'est tout petit, parce que vous pouvez prier, comme nous avons déjà vu faire les apôtres, que Dieu fasse grandir en vous cette foi. Et nous devons tous le louer vraiment de tout notre cœur pour toutes ces grâces envers nous. Nous allons terminer notre prédication ce matin par une prière. Notre Dieu, nous voulons vraiment te bénir, te louer pour cette histoire que tu as fait écrire dans la parole de Dieu pour nous. Une histoire vraie, quelque chose que tu as vécu, quelque chose que ce paralytique et ses amis ont vécu, quelque chose que les gens qui étaient autour de cette maison et même les scribes qui n'y croyaient pas ont vu de leurs yeux. Ta grande science, ton immense compassion pour ceux qui souffrent et ton pouvoir pour pardonner les péchés de quiconque croit en lui. Et aussi pour guérir ceux qui souffrent par telle ou telle maladie. Merci Seigneur de ce que tu fais dans nos vies. Comment tu nous as gardés ces temps-ci. Comment tu as été pour chacun de nous le Tout-Puissant. Et comment tu interviens encore dans notre vie aujourd'hui. Veille être avec chacun d'entre nous. Tu connais Seigneur nos besoins aujourd'hui, les besoins que nous pouvons avoir dans notre corps, mais aussi, Seigneur, tu connais également le trouble qui envahit parfois nos pensées. Garde-nous dans ta paix. Garde-nous, Seigneur, pleinement dans la confiance en Jésus-Christ, notre Tout-Puissant. C'est en son nom que nous te prions ce matin. Amen. Je vais redonner maintenant la parole à Walter.